Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Des notes de musique pour remplir le silence de la place Maïdan au 14e jour de guerre en Ukraine. Nous étions à ce concert de l'Orchestre Symphonique de Kiev au cœur d'une capitale assiégée. Alors qu'Amnesty International documente ce qui s'apparente à un crime de guerre à Tcherniv, 47 civils tués par des bombes russes. Et puis l'Ukraine réclame des avions de chasse, mais comment les acheminer sans que Moscou y voie une déclaration de guerre, enjeu majeur, alors que les troupes russes étouffent les grandes villes du pays. Dans l'actualité, encore de 8 à 13 ans de prison pour les accusés du procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. La retraite à 65 ans, proposée par Valérie Pécresse, elle devrait être aussi dans le programme d'Emmanuel Macron. Et puis les victoires de la musique classique à Aix, nous y serons à la fin de ce journal avec Stéphane Capron. Et au téléphone, Sainte-Fabienne.
Eh bien, la veille du sommet européen de Versailles, nous parlons d'Europe ensemble. On l'a fait en première heure. Maintenant, c'est vos questions que l'on attend et surtout cette nouvelle Europe qui semble émerger du conflit en Ukraine. Est-ce que, selon vous, elle a changé de visage? Qu'en pensez-vous de cette Europe puissance qui peut-être se dessine? Est-ce que l'Union peut aussi se fracasser sur la question du gaz et du pétrole? Est-ce qu'une inexorable entrée en guerre de l'Union, comme certains le disent, vous inquiète réellement? À vos téléphones, 01 45 24 7000.
France Inter. Au fracas des bombes, les Ukrainiens ont donc répondu par ces notes qui ont résonné sur la place Maïdan ce matin. Concert quasiment improvisé devant quelques passants agitant des drapeaux ukrainiens. C'est le reportage de nos envoyés spéciaux Omar Waman et Gilles Gallinaro.
C'est sur une place Maïdan, en état de siège, cernée de blocs de béton et de sacs de sable, que l'orchestre classique de Kiev s'est produit ce matin durant un petit quart d'heure. Un concert pour la paix, dirigé par le chef d'orchestre Herman Makarenko.
Nous aimerions que tous les peuples du monde aient conscience de la tragédie que nous vivons. C'est très difficile de voir mourir des personnes âgées, des femmes, des enfants.
Stop the war in Ukraine.
Arrêtez la guerre en Ukraine.
L'émotion était vive alors que les forces russes resserrent chaque jour un peu plus l'étau sur la capitale. La culture comme rempart à la guerre et au fracas des bombes.
Tout le monde voit que c'est une vraie guerre. Et la culture continue et continuera. Vous comprenez? Donc nous ferons tout pour que la culture et la musique mettent fin à la guerre.
Une guerre qui n'épargne aucun Ukrainien et qui a provoqué l'exode le plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Kiev, Gilles Gallinaro, Omar Waman, France Inter.
Et cet appel donc à l'Europe, hein, on l'a entendu et reconnu avec l'hymne à la joie qui était joué par ces musiciens sur la place Maïdan. Image terrible aussi sur le terrain ce matin à Mariupol au nord, au bord de la mer d'Azov dans le sud-est du pays. Les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir bombardé un hôpital pour enfants. Tout est détruit. Il n'y aurait que 17 adultes blessés selon les autorités locales. Mais aucune installation de santé ne doit être une cible, dit ce soir l'ONU. Et bilan tragique publié aujourd'hui dans un rapport détaillé d'Amnesty International après un bombardement le 3 mars dernier à Tcherniv, au nord de Kiev. 47 civils ont été tués et cela s'apparente à un crime de guerre pour la responsable du programme Conflits, Migration et Justice à Amnesty International, Tchernia Gérolon.
Nous avons enquêté sur l'attaque de la ville de Tchernihiv, qui s'est en fait caractérisée par l'utilisation de 8 bombes sans système de guidage, c'est-à-dire qu'il s'agissait de bombes sur lesquelles on n'avait aucun contrôle sur leur destination, des bombes qui ont été larguées dans des zones densément peuplées. Et il s'agit pour nous de l'attaque la plus meurtrière depuis le début du conflit, 47 morts. Et il s'agissait de civils à leur domicile ou qui se trouvaient dans la rue. Un certain nombre d'entre eux, par exemple, faisaient la queue devant un magasin pour acheter de la nourriture. Les forces armées russes se sont illustrées jusqu'à maintenant par l'utilisation de bombes aveugles sur des hôpitaux, sur des écoles, sur des crèches. Nous appelons la Cour pénale internationale à enquêter précisément sur cette attaque qui, pour nous, pourrait relever de crimes de guerre.
Voilà, Tchernia Giroulon d'Amnesty International au téléphone de Bruce de Galzin. Et c'est l'une des grandes difficultés de cette guerre. Bonsoir Nathanaël Charbonnier.
Bonsoir.
Il est très difficile de connaître le nombre exact de victimes.
Ah oui, tout le monde ment, ou à défaut cache la réalité. Le seul chiffre sur lequel on peut s'appuyer, c'est celui donné par le Haut Commissariat des Droits de l'Homme des Nations Unies. Hier, il recensait 474 civils tués en Ukraine. Mais attention, l'agence de l'ONU ajoutait dans la foulée que ce bilan reste sous-estimé. D'ailleurs, on ne parle pas que des morts que l'on attribue directement à la guerre, c'est-à-dire aux bombes, aux bâtiments qui s'effondrent, ne sont pas comptabilisés également dans ce macabre bilan. Eh bien, les personnes âgées, par exemple, qui meurent par manque de soins. Personne ne dit la vérité et personne ne parle de ces morts. Les autorités ukrainiennes, qui communiquent beaucoup, n'évoquent jamais le sujet. C'est ainsi qu'au cas par cas, on apprend qu'ici, 3 personnes sont mortes dans une explosion à Kiev ou que là, 13 personnes sont décédées à Odessa et ainsi de suite.
Le seul chiffre avancé par les Ukrainiens, c'est celui du nombre de morts de soldats russes.
Oui, Kiev affirme que plus de 11 000 soldats russes ont péri, mais c'est absolument impossible à prouver. D'ailleurs, les Américains donnent un chiffre bien inférieur, selon le Pentagone, entre 2 et 4 000 soldats russes auraient été tués en Ukraine. Une estimation très loin de ce que reconnaît la Russie. Le 2 mars, elle avait fait état de 497 morts dans ses rangs. Elle n'a plus communiqué sur le sujet depuis lors.
Nathanaël Charbonnier.
La suite, c'est la centrale nucléaire de Tchernobyl ce soir qui ne fonctionne plus qu'avec des générateurs.
L'électricité a été coupée à cause des actions militaires russes qui contrôlent la centrale depuis l'invasion. D'où une certaine nervosité aujourd'hui de la communauté internationale. Les générateurs ont 48 heures d'autonomie. Célia Kiré, bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Mais l'Agence internationale de l'énergie atomique a très vite voulu rassurer. Il n'y a pas d'impact majeur sur la sécurité.
Oui, il y a plus de peur que de mal pour le moment. Les entreprises ukrainiennes du secteur reste très inquiète, mais ce soir, l'Agence internationale de l'énergie atomique, gendarme du nucléaire pour l'ONU, écarte tout risque sur la sécurité. Le cœur fondu du réacteur n'a plus besoin de refroidissement. Les sites de stockage de déchets peuvent évacuer leur chaleur sans électricité. Voilà pour le discours, mais problème, les 200 agents bloqués sur place ne peuvent plus surveiller les installations. La sûreté est donc loin d'être optimale, reconnaît Karine Hervieux. Elle est la directrice générale déléguée de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Il y a des combats autour du site, donc on n'est pas à l'abri que ce qui s'est produit sur la centrale de Zaporizhia se produise sur un site comme Tchernobyl. C'est là la difficulté, ils vont perdre la surveillance et la vision qu'ils ont des installations. Mais sinon, à part ça, la perte des alimentations électriques en elle-même n'est pas problématique vis-à-vis de la sûreté du site.
Mais les autorités nucléaires s'inquiètent aussi pour les autres centrales, Célia.
Oui, car elles ont besoin d'électricité en permanence pour évacuer la chaleur produite par le cœur du réacteur. Dans ces 4 centrales en activité, il ne faut absolument pas qu'il y ait de coupure, insiste Karine Hervieux.
Il faut toujours évacuer la chaleur, même après l'arrêt de la réaction nucléaire. Et sinon, on a un risque de fusion du cœur à terme. S'il n'y a pas de moyen d'alimenter en électricité la centrale et que les systèmes de secours existants n'ont plus de carburant pour fonctionner, il y a un risque de fusion du cœur.
Or, les Ukrainiens ont besoin de leurs réacteurs pour avoir de l'électricité. Il n'est donc pas prévu à ce stade d'interrompre le fonctionnement des centrales par précaution.
Célia Kiré, la livraison des armes est aussi une question délicate. Les Occidentaux redoutent ce que Moscou pourrait considérer comme une déclaration de guerre. Les États-Unis ont donc refusé de récupérer et d'envoyer en Ukraine les avions que la Pologne se proposait de faire transiter par son sol. Ces avions MiG-29 que les pilotes ukrainiens savent piloter. Et ce, malgré l'appel répété aujourd'hui du président Zelensky. Quant à la France, elle reste muette sur le matériel militaire qu'elle envoie. Le porte-parole du gouvernement juge d'ailleurs irresponsable les informations données ce matin par Alexis Corbière, membre de la commission défense à l'Assemblée. Le député La France Insoumise évoque l'envoi de gilets pare-balles et de quelques missiles anti-chars. De l'équipement pour les soldats qui sont au front. Mais on parle là de sous-vêtements thermiques, de rangers. Ça fait aussi partie des collectes de certaines associations, comme à Strasbourg, dans le bâtiment que la collectivité européenne d'Alsace a mis à disposition pour les dons. C'est le reportage d'Olivier Vogel.
Dans le grand hall de la CEA, il y a sur la droite l'espace vêtements, jouets et produits pour bébés pour les réfugiés qui vont transiter par Strasbourg. Mais côté gauche, dans des cartons, des produits dits de survie, bougies, lampes de poche, sous-vêtements thermiques, mais aussi matériel militaire.
un gilet tactique, comme ils l'appellent.
Estelle Burguin est la coordinatrice de la plateforme logistique.
Avec des poches, du rembourrage, gilet militaire, de camouflage, avec des poches, on imagine, pour mettre le matériel adéquat.
Dans les cartons d'à côté, un casque militaire, des tenues de camouflage ou des paires de rangers. Cette liste dite de survie a été établie par les associations ukrainiennes qui recherchent également des générateurs, des paires de jumelles et même des drones.
C'est à la fois des vêtements adaptés, mais aussi du matériel, osons le dire, de guerre. Hein. Tout ce petit matériel qui peut aider à tenir quand on est sur un champ de bataille.
On n'est plus vraiment dans l'humanitaire, là.
On n'est plus tout à fait dans l'humanitaire. On est à la frontière, j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire soutenir les personnes qui sont restées en Ukraine dans un contexte de guerre.
Ce matériel, stocké dans l'hôtel de la collectivité européenne d'Alsace, doit être acheminé sur le terrain par les associations ukrainiennes.
Olivier Vogel, France Bleu, Alsace. Et puis, en bref, la Chine, qui se refuse à qualifier l'opération menée par la Russie d'invasion, appelle tout de même aujourd'hui à la plus grande retenue en Ukraine. Pékin qui annonce aussi l'envoi de l'équivalent de 720 000 euros d'aide humanitaire.
À 19h presque 11, Hélène, à un mois quasiment jour pour jour du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron s'apprête à mettre sur la table une deuxième proposition.
Après la suppression de la redevance audiovisuelle, première proposition avant-hier, le candidat s'attaque aux retraites. Bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Hélène.
Chef du service politique. Selon les informations du journal Les Échos, que l'on ne vous dément pas Yael, non, il repousserait l'âge de départ à 65 ans.
Oui, et cela se ferait progressivement à raison de 4 mois cotisés en plus par an, ce qui nous amène à un âge légal de 65 ans en 2032. Parce qu'on vit plus longtemps, parce qu'il faut dégager des recettes pour sauver le régime par répartition. Aux oubliettes donc le système par points engagement du candidat Macron en 2017. 65 ans, c'est la proposition que portait depuis 2010 un certain Éric Woerth, ex-ministre du budget de Nicolas Sarkozy, fraîchement rallié à Emmanuel Macron.
Oui, c'est une bonne option, c'est une option nécessaire. Le report de l'âge de la retraite est à peu près proportionnel à l'augmentation de l'espérance de vie. Donc une bonne nouvelle, c'est qu'on vit plus longtemps et donc on travaille un peu plus longtemps. C'est du bon sens et faut juste un peu de courage pour le faire parce que je sais bien que l'opinion publique en général est contre. Je suis persuadé que les Français peuvent parfaitement bien le comprendre.
Le courage de la réforme, Édouard Philippe ne peut qu'applaudir. L'idée est d'asphyxier toute concurrence sur ce terrain à droite, couper l'herbe sous le pied de Valérie Pécresse, 65 ans, l'option haute retenue, alors que jusqu'en mars 2020, jusqu'à l'abandon de la réforme pour cause de Covid, c'était 64 ans. De quoi dégager des marges de manœuvre aussi pour honorer d'autres promesses, la retraite minimum à 1000 euros ou le chantier de la dépendance. Un début de campagne blitzkrieg pour le candidat Macron qui déconfine tout ce qui avait été gelé pendant sa gestion du Covid.
La retraite à 65 ans, vous le disiez, c'est dans le programme de la candidate LR Valérie Pécresse. Quant à Marine Le Pen, elle est revenue, elle, sur la retraite à 60 ans qu'elle n'envisage plus que pour ceux qui ont eu une carrière longue. Jean-Luc Mélenchon reste, lui, sur ses 60 ans pour l'âge légal de départ. Le candidat insoumis qui scande de plus en plus fort qu'un second tour est accessible, que le vote utile à gauche, c'est lui. Le candidat communiste, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Fabien Roussel rejoint aujourd'hui par plusieurs formations de gauche, dont les radicaux et la nouvelle gauche socialiste. Il ne prend de voix à personne, dit-il, puisque son programme est très différent de celui des autres candidats de gauche.
Mais nous avons de grandes différences parmi les candidatures à gauche, notamment avec Yannick Jadot, l'écologiste, ou Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Parce que je défends, moi, par exemple, la baisse des coûts de l'électricité pour les Français, pour les entreprises, en investissant dans l'énergie nucléaire et dans les énergies renouvelables. Mais je suis le seul à gauche à faire ce choix, et le choix de la souveraineté énergétique. Les Français doivent avoir le choix. Si jamais demain je renonçais, des électeurs qui font le choix de soutenir la France des jours heureux diraient qu'ils, peut-être, ils n'iront pas voter. Peut-être même que certains iront voter vers d'autres candidatures, à droite ou à l'extrême droite. Quand moi j'augmente dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon, lui aussi il augmente, donc c'est que j'en prends pas Jean-Luc Mélenchon. Au contraire, je pense que j'arrive à convaincre des gens qui ne votaient plus ou qui votaient ailleurs. En politique, il ne faut pas voir les choses comme des additions. Au contraire, il y a beaucoup de Français qui aujourd'hui s'abstiennent, n'ont plus confiance dans la politique. Je souhaite, moi, redonner toute sa sincérité à la politique.
Fabien Roussel avec Kathleen Conte, écho de campagne encore à l'extrême droite. L'équipe de campagne de Marine Le Pen regarde les sondages qui baissent pour Éric Zemmour ces derniers jours et plusieurs proches de la candidate RN lui demandent donc de se retirer pour faire primer les intérêts du camp national
sur ses intérêts particuliers. Et puis les personnes en situation de handicap ont interpellé aujourd'hui les candidats. Plusieurs dizaines de manifestations ou d'actions un peu partout en France.
De 8 à 13 ans de prison, Hélène, pour les trois accusés présents au procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Les trois hommes condamnés faisaient partie de l'entourage des deux terroristes qui ont tué le père Hamel et qui ont été abattus par les forces de l'ordre. Ariane Grissel, vous êtes en direct de la cour d'assises spéciale de Paris. Bonsoir Ariane.
Bonsoir.
Un verdict au terme d'un mois de procès qui a satisfait toutes les parties.
Oui, ces trois hommes ont en commun, selon le président, d'avoir sombré dans une idéologie radicale et violente pendant trois semaines. Ici, il a été question de mort, de djihad, de scènes d'horreur. Mais ce que retiendront toutes les parties, ce sont aussi les moments d'introspection, les demandes de pardon. Ce matin, l'accusé Farid Khalil a plongé son regard dans celui de Roselyne Hamel pour lui parler d'espoir. Plus que le verdict, c'est ce moment que retient la sœur du prêtre assassiné.
Ça m'a fait beaucoup de bien et franchement, j'espère que ces mots ont été sincères et je les accueille comme un cadeau. Ces paroles ont été précieuses. Ce moment a été le plus précieux de ces trois semaines de procès.
8, 10, 13 ans de réclusion, de lourdes peines pour la défense dont les clients contestent les faits. Mais Cathy Mira, avocate de Yacine Sebaya, souligne, comme tous, l'ambiance du procès.
Nous aurions préféré, bien sûr, que la Cour prononce un acquittement. Je crois néanmoins que c'est un procès qui se termine avec beaucoup de sérénité. Il y a eu des pas qui ont été faits des parties civiles vers les accusés et vice-versa. Je crois que c'est un procès hors norme.
Exceptionnel ce procès aussi par l'absence du principal accusé, Rachid Kassim, l'instigateur, l'ombre noire, selon un avocat. Présumé mort en Irak, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
Ariane Grissel en direct de la cour d'assises spéciale de Paris avec Lucien Lefebvre. Avec le Covid, le télétravail s'est installé dans nos vies. Mais à quel point et pour qui? C'est à cette question que répond l'INSEE dans sa dernière étude publiée ce soir. Plus d'un salarié sur cinq a travaillé chez lui l'année dernière et parmi eux, près de la moitié l'a fait à 100%. Mais ce que l'enquête nous apprend aussi, Fabien Cazot, c'est que la géographie du télétravail est très déséquilibrée.
Oui, le télétravail est d'abord une réalité urbaine. À Paris, le taux de salariés qui ont travaillé à distance en 2021 atteint 56%, alors qu'il n'est que de 10% en zone rurale, là où par ailleurs les salariés ont davantage besoin de prendre leur voiture. L'écart s'explique d'une part par les risques plus élevés de contamination dans les zones plus densément peuplées, ce qui est encouragé au télétravail dans les grandes villes, et d'autre part par le fait que les cadres y sont plus représentés. Ce sont eux qui ont été les plus massivement concernés par le télétravail, alors qu'ils ne représentent que 22% de l'ensemble des salariés, ils représentent 60% des télétravailleurs. Les ingénieurs informatiques, cadres financiers et enseignants-chercheurs ont souvent travaillé depuis chez eux, contrairement aux ouvriers, aux employés peu qualifiés. Les CDD et surtout les intérimaires ont également été beaucoup moins concernés que les CDI. Sans surprise, la courbe du télétravail suit celle de l'épidémie en 2021, avec un pic jusqu'à la levée du télétravail obligatoire en juin, puis en fin d'année, nouveau pic dès l'apparition du variant Omicron.
Fabien Cazot, et c'est l'heure de se rendre à Aix, au Grand Théâtre de Provence, retrouver Stéphane Capron. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Hélène.
Pour les Victoires de la musique classique qui chaque année nous révèlent les talents de demain, la musique, on l'entendait au début de ce journal, a un instant pris possession de la place Maïdan de Kiev en Ukraine, et la voix du pays résonnera aussi ce soir à Aix-en-Provence.
Oui, la guerre en Ukraine sera au cœur de la soirée avec cet hymne que l'on entend et qui sera joué par l'Orchestre Philharmonique de Nice dirigé par Ariane Matiak, une jeune chef française qui mène une belle carrière internationale et qui avait été choisie par la direction artistique des Victoires de la musique il y a plusieurs mois. Et il se trouve qu'une partie de ses racines sont en Ukraine.
Mon grand-père était ukrainien et la France l'a accueilli d'ailleurs généreusement après qu'il ait combattu pour son pays. C'est aussi grâce à lui, à son combat et son sacrifice que je suis là en France aujourd'hui et que notre famille vit en paix. Donc évidemment cet hymne ukrainien pour moi c'est un honneur de le diriger et envoyer ces petites notes de musique à tout le peuple ukrainien, mes proches. Ça a l'air d'être peu de choses mais finalement la musique réunit, je pense que c'est une arme puissante quand même pour délivrer des messages de paix.
La victoire, la soirée des victoires classiques est aussi une fête tournée vers la transmission, un éclairage pour la jeune génération, un accélérateur pour l'artiste qui recevra ce soir la révélation lyrique ou la révélation instrumentale. Il y aura aussi une nouvelle catégorie, la révélation chef d'orchestre. Enfin, les victoires vont fêter un grand musicien et un grand homme de radio, Frédéric Lodéon, à l'occasion de son 70e anniversaire.
Stéphane Capron pour ses victoires de la musique classique, 21h tout à l'heure, ce sera en direct sur France Musique. Et puis le sport en deux infos, hein, aux Jeux paralympiques de Pékin, médaille d'or aujourd'hui pour le Français Benjamin Davier au sprint en ski de fond. Et puis le football ce soir, 8e de finale, retour de la Ligue des Champions, match important pour le PSG face au Real. Les Parisiens vainqueurs 1-0 à l'aller.
Et oui, si on s'en souvient, merci beaucoup